Bonjour Paul Quilès.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Cordes-sur-Ciel dans le Tarn, dont vous êtes toujours le maire, j'imagine.
Oui.
Vous avez aussi été ministre de la Défense de François Mitterrand. Et vous avez donc, je le disais, signé il y a quelque temps de cela, il y a 4 jours exactement, une tribune dans le journal Libération qui s'appelait tout simplement « Malaise aux armées ». Et il y avait à l'intérieur des mots particulièrement durs. Vous parliez au sein de l'armée d'un climat exécrable, au sein du pouvoir d'une confusion stratégique, et vous qualifiez la méthode de Nicolas Sarkozy de provocation, improvisation et brutalité médiatisée. Est-ce que vous revenez d'une façon ou d'une autre sur ces qualificatifs ou est-ce que vous les maintenez ?
Il n'y a aucune raison de revenir sur ce qui est un constat assez généralement fait par les observateurs, fait aussi par les militaires, dont on sait qu'ils n'ont pas toujours la capacité et l'autorisation de s'exprimer comme les autres citoyens. Récemment, dans le Figaro, est passé un article collectif d'un certain nombre de hauts gradés militaires qui allaient dans ce sens et qui allaient même d'ailleurs beaucoup plus loin sur leurs critiques. Alors, sans vouloir reprendre des critiques qui peuvent paraître un petit peu corporatiste par certains aspects, je crois qu'il faut en revenir à ce qu'est l'outil de défense pour un pays démocratique comme la France au sein de l'Union européenne, et on l'a vu ce matin lors du défilé du 14 juillet, impliqué dans des opérations de maintien de la paix au niveau mondial.
Mais précisément, à partir du moment où l'armée est professionnelle, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement la changer ? Changer ses façons de faire, sa façon d'exister ?
Bien entendu, mais c'est déjà fait. Je vous rappelle que la professionnalisation, qui a été pas très bien faite d'ailleurs, date de 1996. Et en 1996, on avait pensé que la professionnalisation des armées, c'est-à-dire la disparition du service national, ferait faire des économies au budget. Et ça a été en fait l'inverse. Donc, 12 ans plus tard, il était temps, effectivement, d'avoir une réflexion en profondeur, de revoir ici ou là, dans les équipements militaires, dans les effectifs, un certain nombre de choses, mais la façon dont a procédé, j'allais dire le gouvernement, non, le président de la République, puisque c'est lui qui a eu la main du début jusqu'à la fin de l'exercice du livre blanc, et qui l'a encore d'ailleurs, et qui va l'avoir de plus en plus, cette façon-là a heurté de front beaucoup de monde. Elle a heurté de front les militaires, elle a heurté de front ceux qui, comme moi et comme d'autres, sont critiques de la méthode utilisée, et elle va heurter de front dans les prochaines semaines les élus locaux qui vont se retrouver pour certains d'entre eux avec la disparition de garnisons qui sont en place depuis parfois plus d'un siècle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des évolutions, mais il faut un minimum de transparence et un minimum de concertation.
Paul Quilès, je vous propose d'écouter ce que Daniel a à dire. Vous parliez d'économie il y a quelques instants. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Vous nous appelez de l'Homme, c'est près de Lille,
c'est
non
ça.
C'est ça.
Oui.
Alors ces économies, les économies que l'on prévoit de faire sur le budget de la défense, vous, elles semblent vous hérisser. Pourquoi ?
Oh, c'est pas possible. Au lieu de voir tous nos jeunes dehors, qui ne font rien, qui volent, qui font n'importe quoi, le service militaire était quelque chose de bien. On pouvait les dresser, les amener à vivre en communauté, et maintenant il n'y a plus rien, plus rien, plus rien. Et alors le président, il nous solde notre armée.
377 milliards d'euros quand même, Daniel, pour les armées d'ici 2020, c'est ce que disait le livre blanc, ça n'est pas rien.
Vous rigolez ? Et M. Sarkozy, il s'achète une voiture Velsatis, 150 000 euros, et c'est rien ça. Ça fait un quart de ce que l'armée nous coûte.
Paul Quilès, est-ce que l'armée française peut encore être l'armée française à partir du moment où on en supprime 54 000 postes, puisque c'est le chiffre annoncé ?
Alors, deux choses. D'abord, moi, je ne me mettrai pas sur le terrain démagogique des comparaisons des chiffres des uns et des autres. Je voudrais juste dire un mot sur la disparition du service militaire, qui était en fait le service national.
Et qu'évoquait Daniel à l'instant.
Il devenait très inégalitaire et il n'avait pas tous les mérites qu'on lui donnait. Ceci étant, c'est vrai, et on peut le regretter, il donnait à certains sens à la solidarité avec la défense du pays. Ça, c'est vrai. Il a disparu. Aujourd'hui, on voit mal qu'on puisse le rétablir. Alors, par contre, ce que vous voulez...
Oui, mais
on
a évoqué, vous n'oubliez pas de dire qu'il y aurait moins de jeunes dans la rue, moins de délinquants.
Oui, le rôle.
Il serait bien dressé.
Il n'avait pas vocation à faire de la formation, voilà, le service militaire.
Le service militaire, ça n'était pas un ensemble de maisons de redressement.
Non, donc il faut pas confondre les choses. On apprenait à vivre en communauté.
Oui, pour ceux qui le faisaient, mais il y en a beaucoup qui ne le faisaient pas, malheureusement, et c'est en sens-là.
Ils étaient obligés.
Qu'il était, non.
L'armée, c'était obligatoire.
Non, il y avait beaucoup de gens qui y échappaient, malheureusement. Enfin bon, c'est comme ça. C'est passé, c'est derrière nous. Je pense maintenant qu'il faut voir à quoi, c'est la question que vous posiez est très juste, à quoi sert l'armée française alors que nous sommes dans un cadre européen. Et le regret que j'ai, c'est que l'on n'ait pas engagé cette réflexion, qui est celle du livre blanc, pendant 10 mois de travail, qui a associé beaucoup de monde, qu'on ne l'ait pas faite au niveau européen. Parce que voyez-vous, on ne peut pas dire que les menaces, le livre blanc commence à analyser les menaces. Pourquoi est-ce qu'on a une défense? C'est parce qu'il y a des menaces et qu'il faut se défendre. On ne peut pas dire qu'on se défend au niveau européen et analyser simplement au niveau français les menaces et apporter des réponses strictement nationales. Et ça, c'est le vrai problème de fond, le vrai débat auquel M. Sarkozy apporte de mauvaises réponses. Première mauvaise réponse, l'analyse des menaces à travers le monde est présentée de façon dramatisante avec un ajout de toutes ces menaces depuis des cybermenaces jusqu'au terrorisme en passant par les menaces nucléaires et biologiques. Et tout ceci vise à produire en définitive de l'anxiété et risque à terme de justifier toutes sortes de dérives sécuritaires. Première critique. Deuxième critique, on a beaucoup parlé, peut-être en discuterons-nous dans un instant, du retour de la France dans l'OTAN, dans l'Alliance. Ça n'est pas un retour dans l'OTAN comme on le dit trop souvent, c'est dans le commandement militaire intégré de l'OTAN. En réalité, ça n'est pas grand-chose sur le plan technique, ça n'apportera pas grand-chose à l'OTAN, ça n'apportera pas grand-chose à la France. Mais sur le plan politique, je pense que c'est une catastrophe que la France, alors que M. Bush est en train de terminer son mandat dans des conditions dans un jugement international extrêmement négatif sur sa politique internationale, sur sa politique de défense, que nous venions en quelque sorte, par M. Sarkozy, apporter une sorte de caution à ce qu'a fait M. Bush. Je crois que cette dérive atlantiste est mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'elle donne à nos amis européens le sentiment que la France, qui, depuis le général de Gaulle, avait une position originale au niveau européen et au niveau de l'Alliance Atlantique, la France, en définitive, abandonne l'objectif essentiel qui est celui de la défense européenne.
Nous allons écouter Paul Quillet. Je vous propose d'écouter Antoine, qui, lui, a un autre sentiment, visiblement, sur ce que doit être la mission d'une armée. Bonjour, Antoine.
Bonjour.
Vous nous appelez de Sainte-Geneviève-des-Bois.
C'est cela.
Alors, quel est votre sentiment à vous, alors ?
Moi, mon sentiment, c'est que l'armée doit être modernisée périodiquement pour se plier aux risques qu'il peut y avoir et non pas à ce que l'on voudrait conserver. Nous avons vu à la guerre de 40 des tanks français. Et les tanks français, quand ils se sont heurtés aux tanks allemands qui étaient plus modernes, ils n'ont pas résisté, ça a été un jeu de quilles. Si l'armée française avait été modernisée, elle aurait pu au moins résister potablement.
Antoine, je vous propose juste de vous arrêter un moment, on vous reprendra tout de suite. Paul Quillet, j'ai lu que précisément l'état du matériel de l'armée française n'était peut-être pas ce qu'on peut souhaiter d'une armée véritablement efficiente.
Oui, c'est par faute de crédit de fonctionnement. Ceci est connu, malheureusement. Insuffisance d'entraînement, des matériels en mauvais état. Mais il faut à un moment donné faire des choix. Et ce que dit Antoine est juste, il faut moderniser les armées et ce que propose le livre blanc, avec lequel je ne suis pas en désaccord, c'est de développer la fonction du renseignement. Moi, quand j'étais ministre de la Défense, j'ai fait lancer un des premiers satellites qui s'appelait Helios, qui était un satellite de renseignement. Donc j'y suis particulièrement, j'étais ministre de l'espace pendant 4 ans, je suis particulièrement sensible à cet aspect moderne des armées. Mais, encore une fois, comment envisager le renseignement uniquement au niveau français, ça n'a pas véritablement de sens. Les avions deviennent plus efficaces, donc on réduit les besoins en avion. Mais le vrai problème, et là où la crise est latente, c'est ce qui concerne l'armée de terre. parce qu'on parle de projeter nos forces, c'est ce qu'on appelle les forces de projection à travers le monde, dans des opérations extérieures, en général, la plupart du temps, et même presque exclusivement demandées par les Nations Unies. Mais il faut des militaires, de l'armée de terre. Or, on réduit de façon considérable les effectifs de l'armée de terre sans que l'on sache très bien si cette réduction est compatible avec des missions. Donc on donne des missions fortes, j'entendais encore tout à l'heure lors du défilé du 14 juillet, les grandes missions de l'armée française projetées sur des théâtres d'opérations extérieures, et dans le même temps, on réduit de façon considérable les effectifs. Il y a là une contradiction que les militaires, à juste titre, ne comprennent pas très bien.
Antoine, vous, ce que vous souhaitiez plutôt, c'est une armée chargée simplement de défendre, si j'ai bien compris.
De défendre, évidemment, mais pour défendre, j'ai entendu pour les hélicoptères Tigre, bon ben les hélicoptères Tigre, ça va remplacer pas mal de piétons, si on peut dire, de gens de l'armée de terre. À ce moment-là, ces gens-là, on se les supprime et on peut s'acheter de plus d'hélicoptères pour défendre encore mieux et en risquant la vie de beaucoup moins de gens.
C'est pas si simple que ça, parce que l'hélicoptère ne remplace pas les fantassins quand on envoie des...
Non, il en faut, les fantassins sont nécessaires, mais on peut sûrement en supprimer par rapport à ce que nous avons en ce moment.
Paul Quillez, je me souviens qu'il y avait eu au moment, je crois, de la première guerre du Golfe, une sorte de propagande peut-être qui présentait l'armée irakienne de Saddam Hussein à l'époque comme la 4e ou 5e armée du monde. Qu'est-ce que vous diriez de l'armée française ?
Oh, je crois que c'est une bonne armée. C'est une armée qui est bien située dans la hiérarchie militaire à travers le monde. Je crois que ça n'est pas discutable. Mais encore une fois, tout dépend de savoir quelles sont les missions qu'on lui confie. Voyez-vous, dans les missions dites opérationnelles qui sont prévues par le Livre blanc, il est prévu 10 000 hommes pour la sécurité intérieure. Et là, il y a une question qui se pose, c'est de savoir de quelle mission il s'agit. Là, est-ce qu'il s'agit de lutter contre le feu ? Est-ce qu'il s'agit d'intervenir en cas d'attentat terroriste ? De quoi s'agit-il ? Et on a réduit, en définitive, la capacité de projeter nos forces, notamment terrestres, mais pas seulement, à l'extérieur du territoire, en augmentant de façon considérable celles qui sont destinées à la sécurité du territoire. Voilà une question qui aurait mérité d'avoir des réponses plus précises pour que l'on sache véritablement vers quoi on va, Que veut-on défendre ? Que veut-on défendre aujourd'hui ? Et là, il y a une succession de menaces qui sont explicitées dans le Livre blanc, et l'addition de ces menaces, je le disais tout à l'heure, peut créer un climat tel qui justifie ensuite des dérives qui sont extrêmement préjudiciables à la démocratie.
Alors, les missions de l'armée, on dirait que c'est presque une conversation de professionnels, parce que le sentiment des auditeurs de RTL jusqu'à présent a l'air d'être plutôt, se porte plutôt sur les liens qui unissent l'armée à la nation, en quelque sorte. Patricia, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Neuchâtel, dans la Sarthe. Et oui. Vous aussi, vous revenez sur la suppression du service militaire, avec ce sentiment donc que c'est précisément là que se faisait le lien entre l'armée et la nation. On dirait qu'il y a une sorte de nostalgie. Pour quelle raison ?
Moi, je pense tout simplement qu'il est plus qu'urgent de remettre ce service militaire obligatoire. Pour la bonne et simple raison, c'est que nous avons des jeunes qui sortent des écoles, qui n'ont pas de travail, qui ne connaissent rien de la vie. Moi, je pense que l'armée, ça leur apprenait beaucoup de choses. J'ai entendu quelqu'un tout à l'heure qui parlait de la vie en communauté, c'est une chose. Mais même tout seul, je veux dire, ça leur apprend à se débrouiller seul. Ça peut leur faire apprendre aussi à connaître un métier, parce que dans l'armée, il y a plein de corps de métiers. Et s'ils ne savent pas, s'ils ne goûtent pas un petit peu à cette armée, ils ne peuvent pas savoir. Et aujourd'hui, ils ont la seule solution, c'est de s'engager. Et malheureusement, s'ils s'engagent sans connaître, comment voulez-vous ? Il y en a qui tombent de haut. Moi, j'ai un frère qui a voulu être dans l'armée. Et quand il a vu ce que c'était, eh ben, une fois qu'il était pris dedans, eh ben, il a fait n'importe quoi pour pouvoir en sortir. C'est malheureux. Alors qu'il y serait resté qu'un an. Parce que c'est pas grand chose, un an dans une vie. Eh ben, au moins, il aurait pu se dire, OK, je continue, ou OK, j'arrête. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce qu'on en fait de nos jeunes ? On n'en fait rien.
Ça vous étonne, Paul Quilès, qu'on ait ce genre de souvenirs, peut-être ces missions en fait qu'on prête à l'armée, qui ne sont pas du tout les missions de projection dont parlent les professionnels.
Oui, ça ne m'étonne pas, parce que quand il y a eu la suppression du service national, moi j'étais intervenu, il y avait une commission qui avait été présidée par Philippe Séguin, et j'étais intervenu pour dire que ça me semblait dangereux de supprimer purement et simplement, et j'étais favorable à ce qu'on maintienne quelques mois de service militaire obligatoire pour justement répondre un petit peu aux préoccupations qu'expriment vos auditeurs. Mais bon, maintenant on est là, personne ne pense un seul instant qu'on rétablira un service militaire obligatoire. Par contre, mettre en place un service civil avec un caractère pas simplement volontaire mais obligatoire par certains aspects, moi je n'y suis pas défavorable. Le tout est de savoir combien ça coûte. Mais plus largement, je crois qu'il ne faut pas confondre ce qui est du domaine du civisme, de l'intégration, de la formation des jeunes, et ce qui est la défense du pays, la défense de l'Europe, la défense de nos valeurs démocratiques. C'est deux choses différentes qui peuvent être complémentaires. Mais encore une fois, si on est l'objet d'une attaque, un pays voisin, ami, est l'objet d'une attaque et que nous devons être solidaires et le défendre, ça n'est pas simplement parce qu'il existera un service militaire qu'on y arrivera. Bon, tout cela forme un tout, et je crois qu'il faut quand même bien voir que nous sommes dans un monde dangereux, dans un monde instable, et je le dis en passant, et le livre blanc de ce point de vue-là est insatisfaisant, qu'il n'y a pas que des réponses militaires, il n'y a pas que les réponses de la force, il y a les réponses politiques, il y a les réponses de la négociation, il y a des réponses économiques. Et quand vous regardez l'état du monde aujourd'hui, très franchement, c'est pas le fait de savoir si on a 20 000 ou 30 000 hommes projetables ou 40 000 qui réglera la situation. On l'a vu ce matin avec les chefs d'État du Moyen-Orient qui étaient présents au défilé. J'ose espérer que le fait qu'ils étaient présents à notre défilé amènera la paix au Moyen-Orient, je ne le crois pas un seul instant.
Que devrait donc être exactement l'armée française? Quelles sont ses missions? Nous en reparlons dans un instant en compagnie de Paul Quilès. Je vous rappelle aussi que je vous sollicite sur deux autres événements dans l'actualité. Cette amende à Vérone en Italie pour un fumeur qui avait allumé une cigarette dans un jardin public. Et puis les pompiers qui voudraient bien facturer les appels abusifs. On se retrouve dans un instant.
Appelez Yvon Le Gall au 3210.
Face aux auditeurs
sur RTL.
RTL 13h23 face aux auditeurs avec Yvon Le Gall à propos du malaise dans l'armée. L'ancien ministre socialiste de la Défense, Paul Quilès, vous écoute. Vous appelez le 3210 3210.
Paul Quilès, Patricia parlait à l'instant de la façon dont on pouvait utiliser finalement une année passée à l'armée, peut-être pour se former. J'ai été assez étonné par ce que j'ai lu après le drame de Carcassonne. Il semble désormais que l'armée doit utiliser ce genre, chaque régiment plus exactement, doit utiliser ce genre de performance, on va dire, ou ce genre de spectacle pour assurer son recrutement. Est-ce que c'est vrai?
Je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve que j'ai deux regrets. Le premier, c'est qu'on généralise un peu trop la politique spectacle s'agissant de l'armée. Je crois que ça n'est pas véritablement le rôle de l'armée. C'est bien d'introduire de meilleurs liens entre les citoyens et les militaires, qui sont aussi des citoyens d'ailleurs. C'est bien de faire savoir ce qu'est capable de faire l'armée. Et mon premier regret, c'est qu'on en fasse trop. Mon deuxième regret, c'est l'insuffisance de préparation et l'erreur colossale qui a été commise à Carcassonne. Alors, ceci étant, je voudrais dire un mot, parce qu'il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé depuis cette affaire. Je pense que le président de la République s'est mal conduit, parce que d'abord, il a manqué de sang-froid en répondant à l'émotionnel. Simplement, quand on est responsable de ce qu'on appelle le bouton rouge, qui n'existe pas d'ailleurs, mais enfin de la force de frappe, on doit garder tout son sang-froid, quelle que soit la situation, quelle que soit le climat dramatique. Et la deuxième faute, c'est de ne pas avoir attendu l'enquête qui est en cours et de parler d'une faute collective des militaires qui seraient tous des amateurs, c'est très vexant. Et la troisième erreur, la troisième faute, c'est d'avoir une attitude brutale et méprisante à l'égard des militaires qui a entraîné, vous l'avez vu, la démission du chef d'état-major de l'armée de terre, ce qui est assez rare quand même en France.
Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez d'Orléans. Et voilà. Vous avez le sentiment en fait que l'armée devrait surtout servir à prévenir le terrorisme, c'est bien ça?
tout à fait. Je pense que la menace a évolué. On n'est plus dans un contexte de Seconde Guerre mondiale, ni d'ennemis conventionnels qui étaient le bloc communiste à l'époque. Et donc la menace pesant moins aux frontières, je pense qu'il fallait réaxer la défense sur effectivement la lutte antiterroriste et privilégier notamment le renseignement. Je pense que c'est un choix qui n'est pas qui est objectif qui est tout à fait qui correspond aux finances de la France actuellement et au budget, hein, parce que je pense que la question de la défense est aussi une question de budget, hein. J'entendais tout à l'heure l'autre intervenant là qui parlait de blindés français contre des blindés allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'était pas lié au matériel, hein, c'était lié à une stratégie. On avait principalement axé la défense sur la ligne Maginot. Et la preuve, c'est que nos avions, la chasse française, les 1000 victoires de la chasse française, hein, contre l'aviation allemande, a montré que le matériel tenait la route quand même.
Ah, il y a donc toujours des spécialistes du matériel de l'armée française et de l'armée tout simplement. Paul Quillez, le renseignement comme mission de l'armée, elle n'est pas la seule, hein, du reste.
Très mission très importante, et encore une fois, il ne faut pas donner le sentiment qu'on découvre aujourd'hui le renseignement. Simplement, il y a des moyens modernes que sont les satellites, que sont les drones aussi, c'est-à-dire ces avions sans pilote qui peuvent voler à basse altitude, indétectables, et qui donnent énormément de renseignements. Donc c'est deux choses différentes. Et puis il y a le renseignement humain, qu'on a un peu trop négligé par le passé, qui est d'une extrême importance. Mais par rapport à cette prévention des risques, on parlait du terrorisme, il y en a d'autres. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, la réponse politique. La réponse politique, elle est parfois d'essayer de désamorcer des conflits. C'est ça aussi, prévenir les risques. Et il ne faut pas oublier également que la défense de la France, la défense de l'Europe, se joue aussi sur des territoires extérieurs. Et elle peut se jouer. Les interventions multiples que l'on fait en Afrique, notamment de nature humanitaire, ou pour essayer de séparer des belligérants, ce qui n'est pas simple, on le voit aujourd'hui au Darfour, c'est aussi une façon s'occuper de notre sécurité. La sécurité, c'est pas simplement le risque de prendre une bombe atomique sur le territoire. C'est un risque qui est quand même assez faible. Mm-hmm. Le risque, c'est le risque économique, c'est le risque des flux migratoires incontrôlés, c'est le risque de crise économique d'une extrême gravité, et tout cela fait partie de la sécurité de notre pays.
Paul Quillez, je sais que vous avez des obligations à Corte-sur-Ciel cet après-midi. Est-ce que vous avez encore un petit peu de temps à accorder aux auditeurs d'RTL, puisque ce débat visiblement a l'air de les intéresser?
J'ai un défilé médiéval d'une autre nature cet après-midi à Corte, je veux bien rester quelques instants avec vous.
Eh bien, ce sera après cette page de publicité.
Face aux auditeurs, avec Yvon Le Gall
sur RTL.
RTL, il est pratiquement 13h30. Aujourd'hui, face à vous, l'ancien ministre socialiste de la Défense, Paul Quillez, face aux auditeurs sur RTL avec Yvon Le Gall, au 3210 3210.
Avec l'ancien ministre socialiste Paul Quillez, nous parlons, et avec vous, naturellement, nous parlons aujourd'hui de l'armée française, ce que devraient être ses missions. Est-ce que le lien est rompu entre l'armée et la nation? Ce sont donc les questions que je vous pose aujourd'hui, et que je pose d'ailleurs à Eric. Bonjour Eric.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Angers, dans, oui, le Maine-et-Loire.
Oui, tout à fait. Oui.
Et donc, vous aviez une pensée pour quelqu'un d'autre, ou quelques autres plutôt.
Tout à fait, oui. Donc en fait, je suis un petit peu concerné par le problème, parce que je suis un civil qui travaille pour l'armée, pour le ministère de la Défense. Donc je suis ouvrier d'État. Je vais parler un peu par rapport à le sujet que je maîtrise, c'est que par rapport à mon emploi que j'occupe sur Angers, je suis un petit peu ému, excusez-moi.
Mais allez-y, je vous en prie, on vous écoute.
Nous sommes une entreprise qui avons à peu près 450 personnes. Nous sommes un des plus grands centres d'Europe d'essais de véhicules militaires pour l'armée. Et suite aux révélations, au compte-gouttes du livre blanc, était quasiment sur la fermeture directe. On nous a dit de faire des efforts, on nous dit d'être les meilleurs, on fait tout ce qu'on nous demande. Et en fait, on se retrouve quasiment jeté dehors, quoi, pour être rattaché à Bourges, qui serait le pôle terrestre de l'armée de terre. Alors, on ne parle quasiment jamais des civils qui sont menacés par ce livre blanc, donc je tenais à faire un peu écho de cette voix.
Mmh. Paul Quilès, du reste, cet agenda, ou en tout cas ce qu'il, les décisions définitives, leur annonce en tout cas, est sans cesse reportée. Hein. C'est signe quand même que ce sujet est particulièrement sensible.
Oui, là on touche vraiment au cœur de la critique et qui porte aussi sur la méthode. Le fait que ce qu'on appelait la carte militaire, en fait, Eric a raison, ça concerne aussi les ouvriers d'État, ça concerne les établissements qui utilisent de nombreux civils, qui emploie de nombreux civils. Cette carte militaire va être rendue publique dans une dizaine de jours. Et ce n'est pas un hasard. Si elle a été repoussée, le président de la République et sa majorité ont des difficultés à faire passer au Congrès de Versailles la réforme institutionnelle. Ça va se jouer à quelques voix, la possibilité que cette réforme soit adoptée. Et donc, ils ont souhaité, c'est évident, ne pas créer crise grave avec certains élus avant cette date. Tout la date de fin juillet, je trouve que ce n'est pas très correct parce qu'on sait que certains élus, y compris de la majorité, sont furieux à l'égard de la méthode qui a été retenue, qui consiste, comme l'a dit Eric, à distiller des informations. Ça fait des mois que l'on parle de telle ou telle base, telle ou telle garnison, tel ou tel régiment qui vont être supprimés, déplacés, et ça crée évidemment une inquiétude. Alors, que l'on prennent des dispositions, on l'a dit tout à l'heure, pour rationaliser, pourquoi pas. Mais qu'on ne le fasse pas avec les responsables, qu'au lieu d'informer, de se concerter, on laisse traîner les choses en longueur, je crois que c'est très mauvais et ça ne va pas créer un bon climat pour cette évolution qui est par certains aspects nécessaire, mais certainement pas de la façon dont c'est fait.
Mais je suis tout à fait d'accord avec vous du fait que c'est inimaginable le climat que l'on peut avoir maintenant dans notre boîte. Hein. Moi, je vous dis, hein, j'ai pas peur de le dire, un DGA État Saint-Montreux-Junier. Hein, c'est un des plus grands centres de d'essais militaires. On essaye tout ce qui roule pour la mettre. Que ça parte de la P4 jusqu'au char Leclerc. Il y a des experts, il y a des ingénieurs, il y a des gens qui font très bien leur travail. Il y a tout un groupement autour. Ils sont tous performants. On a eu des visites de la DGA qui sont venues nous voir. On nous a dit, vous êtes les meilleurs. Vous avez fait toutes les réformes qu'il a fallu. Il a fallu détruire des bâtiments. Il a fallu supprimer des personnels. On a été les meilleurs élèves de la DGA. On nous caressait dans le sens du poil. Ils venaient nous voir. Et du jour au lendemain, comme ça, en apprenant sous la couverture, en fait, eh ben, on nous dit, vous allez fermer, messieurs. Et ça, c'est inacceptable.
On l'entend, Paul Quilès, dans les tremblements de la voix d'Éric, à quel point c'est charnel, hein, ce dont on parle là aujourd'hui.
Je le comprends d'autant mieux que ça renvoie à d'autres débats dans d'autres domaines de la vie publique française, où on veut, sous prétexte de réformer, je me garde bien d'utiliser ce mot qui devrait avoir un sens plus noble que celui dans lequel il est utilisé. Il s'agit souvent de casser, de détruire. On veut tout réformer, et là, en l'occurrence, il y a un discours qui est un beau discours, qui est discours d'amélioration, qui est un discours de réforme nécessaire, etc. Et il y a les actes. Et les actes se traduisent par, c'est exactement ce que dit Eric, une sorte de mépris. Mépris à l'égard des personnels, mépris à l'égard des responsables, comme je disais à propos de Carcassonne tout à l'heure, mépris à l'égard des élus. Vous avez des conseillers municipaux qui ont déjà démissionné, et certains qui appartiennent à la majorité, qui sont furieux de ne pas savoir ce qu'il adviendra demain de zones qui ont vécu. Alors il y a les établissements, et il y a les zones, les territoires qui ont vécu d'implantation militaire. Le président de la République a eu une formule dont il a le secret, qui est aussi extrêmement méprisante et fausse. Il dit l'armée n'est pas chargée de faire l'aménagement du territoire. Évidemment, personne n'a dit cela. Mais l'État est chargé de faire l'aménagement du territoire. Et c'est à l'État de faire attention, quand il modifie considérablement les données, de le faire en liaison avec les personnels, avec les responsables, avec les élus.
Merci Paul Quilès d'avoir accompagné les auditeurs de RTL dans cette première partie des auditeurs ont la parole.